Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 21 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Mali, les militaires au pouvoir ont limogé le premier ministre civil, Chogelko Kala Maïga, et son gouvernement, après des critiques de M. Maïga contre le pouvoir militaire. En République démocratique du Congo, l'opposition promet des manifestations pour protester contre le projet de changement de constitution annoncé par le président Tshisekedi. En Tanzanie, la présidente promet des mesures après l'effondrement d'un immeuble qui a fait au moins 20 morts. Et dans notre partie magazine, au Bénin, les statistiques relatives aux violences basées sur le genre sont en hausse, malgré toutes les actions menées par les pouvoirs publics.
C'est important que les gens sachent qu'il y a des tests de loi qui existent, qui définissent ce que c'est que la violence, qui définissent des peines à l'encontre des auteurs de violences basées sur le genre.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dans un flash spécial, le secrétaire général de la présidence du Mali a lu le décret mettant fin aux missions du premier ministre Chogelko Kala Maïga. Plus de détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient de mettre fin aux fonctions du premier ministre Chogelko Kala Maïga et de l'ensemble de son gouvernement. Cette décision fait suite à la sortie musclée du premier ministre le samedi dernier. Sortie au cours de laquelle le Premier ministre n'a pas été tendre avec les autorités militaires, les accusant de ne pas avoir de vision politique pour la suite de la transition et d'être lui-même marginalisé dans la prise des grandes décisions qui concernent la vie de la nation. Suite à cette sortie du Premier ministre, qui s'est faite à l'occasion de l'an 1 de la reprise de Kidal par les forces armées, plusieurs regroupements, dont le collectif de défense des militaires, ont mobilisé à travers le pays pour demander au président de se séparer de son Premier ministre. 24 heures après ces meetings, la décision est tombée. Le gouvernement est dissous. Nommé le 11 juin 2021, Chogel aura passé 3 ans et 5 mois à la primature. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Toujours au Mali, le directeur général et deux employés de la société australienne Resolute Mining ont été remis en liberté mercredi selon une source judiciaire et un responsable local de la mine d'or après un accord de 160 millions de dollars avec le gouvernement. Les trois hommes avaient été arrêtés en novembre après s'être rendus à Bamako pour ce qu'ils pensaient être des négociations de routine avec les militaires au pouvoir. Au lieu de cela, le directeur général britannique Terence Holohan et deux de ses collègues ont été détenus de manière inattendue pour être interrogés. Sept membres du corps de la sécurité et de la défense civile du Nigeria sont disparus après une attaque de Boko Haram dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays. L'attaque survenue lundi a visé un convoi surveillant des installations électriques. Selon un porte-parole, environ 50 membres de Boko Haram ont été tués et d'autres agents ont été blessés et soignés. L'attaque a été menée par environ 200 militants armés qui ont tendu une embuscade au convoi. Des leaders de l'opposition en République démocratique du Congo promettent des manifestations pour protester contre le projet de changement de constitution annoncé par le président Félix Tshisekedi. Le chef d'État est accusé de vouloir s'éterniser au pouvoir. Alexandrine Hollognon.
Dans une déclaration commune, les opposants ont accusé Tshisekedi de vouloir briguer un troisième mandat en menant ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel et dénonçant une dérive dictatoriale. Lors d'une conférence de presse conjointe, plusieurs mouvements d'opposition ont appelé à des manifestations citoyennes à travers tout le pays et dans la diaspora dans les jours à venir pour, disent-ils, défendre la Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Ces dernières semaines, le président a plusieurs fois affirmé son intention de mettre en œuvre une révision de la Constitution sans toutefois préciser s'il s'agirait d'une modification de certains articles ou de l'adoption d'un nouveau texte. Toute modification de la Constitution en RDC doit être approuvée par référendum sur convocation du président de la République, sauf si le projet est approuvé à la majorité des 3/5 du Parlement.
En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a comparu ce mercredi devant la justice dans la capitale Kampala, a annoncé son avocat quelques heures après que son épouse Winnie Byanyima, directrice de l'ONU SIDA, a affirmé qu'il avait été kidnappé samedi au Kenya. Kizza Besigye, ancien allié devenu adversaire du président Museveni, a contesté d'être jugé par un tribunal militaire, affirmant qu'il était civil. L'audience a été suspendue après que Besigye a dénoncé le fait de n'avoir pas pu communiquer avec ses avocats pendant sa détention. En Tanzanie, la présidente de la République promet des mesures après l'effondrement d'un immeuble qui a fait au moins 20 morts dans un quartier commercial animé de Dar es Salaam. Le point avec Eddie Isango.
Samia Suluhu s'est rendue dès son retour du sommet du G20 au Brésil sur le lieu à Cariacou où les bâtiments de 4 étages s'est effondré samedi. Elle a confirmé les décès de 20 de ses concitoyens dans l'effondrement. Les bilans étaient de 16 morts lundi. Selon la présidente tanzanienne, 3 survivants sont toujours hospitalisés après l'incident qu'elle a qualifié de terrifiant. Il est clair que ces murs n'ont pas été construits selon les normes. Nous ne pouvons pas permettre qu'un tel incident se reproduise, a-t-elle regretté. Le gouvernement a créé une commission pour inspecter tous les bâtiments dans les quartiers commerciaux animés où l'accident s'est produit. Samia Suluhu Hassan a promis que son rapport serait rendu public. Elle a annoncé que le gouvernement n'hésitera pas à démolir les bâtiments dangereux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Biden, pourtant critique des mines antipersonnelles en raison de leur danger pour les civils, s'est efforcée mercredi de justifier sa décision d'envoyer de telles armes à l'Ukraine, censées permettre de ralentir l'avancée des troupes russes dans l'est du pays. Les forces mécanisées ne sont plus en tête. Ils avancent à pied de manière à s'approcher et faire des choses pour ouvrir la voie aux forces mécanisées, a déclaré au Léos le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, parlant d'un changement de tactique des Russes sur le champ de bataille. La livraison de mines antipersonnelles fait partie d'une nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine, annoncée mercredi de quelque 275 millions de dollars. Les violences en Haïti ont fait au moins 150 morts en une semaine dans la capitale Port-au-Prince. S'est inquiété mercredi le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dénonçant la violence des gangs. Le point avec Eric Manilakis.
Au moins 150 personnes ont été tuées, 92 blessées et quelques 20 000 ont dû fuir à leur domicile pendant la semaine du 11 novembre, a-t-il souligné dans un communiqué. Ce nouveau bilan porte à 4 544 morts et 2 060 blessés, le nombre de morts en Haïti depuis le début de l'année selon l'ONU, qui souligne que le véritable bilan est probablement plus élevé. L'ONU précise qu'environ 700 000 personnes sont maintenant déplacées à l'intérieur du pays, dont la moitié sont des enfants. La dernière flambée de violence dans la capitale haïtienne est un présage du pire avenir, estime l'ONU dans ce communiqué. Les autorités ont annoncé mardi que la police et des groupes de défense civile ont tué 28 membres d'un gang à Port-au-Prince après une opération nocturne. La violence des gangs ne doit pas l'emporter sur les institutions de l'État et doit être stoppée rapidement. Haïti ne doit pas sombrer davantage dans le chaos, a ajouté le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Des gangs armés contrôlent environ 80% de la ville et s'en prennent régulièrement aux civils malgré le déploiement d'une force internationale sous la houlette du Kenya.
L'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein a annoncé qu'il se rendrait en Israël après ses entretiens à Beyrouth dans le but d'obtenir un cessez-le-feu dans la guerre qui oppose le Hezbollah à l'armée israélienne dans le sud du Liban. Les États-Unis et la France intensifient leurs efforts pour négocier une trêve. Cependant, malgré ces démarches, les affrontements continuent et Israël avertit qu'il poursuivra ses opérations contre le Hezbollah, même en cas de trêve. Pendant ce temps, le chef du Hezbollah libanais a livré un discours combatif mercredi, prévenant qu'Israël ne pouvait imposer ses conditions pour un cessez-le-feu dans la guerre au Liban, où l'envoyé américain Amos Hochstein à mener des négociations avant de se rendre en Israël. L'ambassadrice américaine à Beyrouth, Lisa Johnson, avait présenté la semaine dernière aux autorités libanaises un plan en 13 points prévoyant une trêve de 60 jours et le déploiement de l'armée dans le sud du Liban, un des fiefs du Hezbollah. Au moins 36 personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes visant la ville millénaire de Palmyre. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le Fonds africain de développement a approuvé hier à Abidjan un premier financement de plus de 99 millions de dollars pour développer des chaînes de valeur régionales rizicoles résilientes en Afrique de l'Ouest. L'objectif du projet est de renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest en favorisant les investissements publics et privés dans ces chaînes de valeur du riz pour accroître l'autosuffisance de la région d'ici à 2030. Au Gabon, le chantier de construction du nouvel aéroport de Tchibanga dans la province de la Nyanga a été lancé par le ministre des Transports, Dieudonné Loïc Ndinga Mouduma. Le chantier doit durer 6 mois, mais le coût des travaux n'a pas été communiqué. Ecofin souligne que ce nouvel aéroport vise à répondre aux normes internationales afin d'améliorer l'accessibilité de la région et stimuler l'économie locale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé son projet de budget 2025. Le ministre des Finances, Adama Koulibaly, a annoncé vouloir allouer 4 121 milliards de francs CFA, soit 26% des dépenses totales, à l'amortissement de la dette dans son budget 2025. Au 30 juin 2024, la dette publique ivoirienne s'élevait à 55% du PIB, selon les données du gouvernement.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Rosine.
Coupe Davis, l'heure de la retraite a sonné pour un Nadal en paix.
2 ans après Roger Federer, Rafael Nadal est devenu mercredi à Malaga le 2e membre du Big 3 du tennis à ranger ses raquettes pour de bon. Serein après une ultime défaite en quart de finale de la Coupe Davis contre les Pays-Bas. Ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait tous aimé, à savoir par une qualification de l'Espagne à regretter le héros du jour lors d'une cérémonie d'hommage qui a commencé par une litanie de remerciements. Sa voix s'est brisée sous le coup de l'émotion quand il a remercié sa famille qui a joué un rôle essentiel dans sa carrière, particulièrement son oncle et entraîneur au long cours Tony Nadal. Nadal a ensuite reçu les félicitations du gratin du tennis et du sport mondial par vidéo interposée. Serena Williams, Andrés Iniesta, Roger Federer, David Beckham, Novak Djokovic, Andy Murray. Les meilleures choses ont pourtant une fin après 23 années. Sur le circuit et presque autant de titres au Grand Chelem, 22, ce sont les Pays-Bas qui ont poussé Nadal vers la sortie à 38 ans. J'ai perdu mon premier match en Coupe Davis en 2004. Je viens de perdre mon dernier match. La boucle est bouclée, a pour sa part jugé Nadal. L'éternel rival du Suisse Roger Federer, 20 titres du Grand Chelem. Et du Serbe Novak Djokovic, 24 titres. Désormais, le seul membre du trio de titans du tennis encore en activité n'avait plus disputé de match officiel depuis sa défaite le 31 juillet en quart de finale du tournoi olympique.
Angleterre, Guardiola sur le point de prolonger d'un an à City.
Pep Guardiola devrait prolonger d'une année son contrat sur le banc de Manchester City, ont rapporté mardi des médias. Le Catalan de 53 ans arrivé en 2016 a remporté avec le club mancunien 6 titres de Premier League et une Ligue des Champions en 2023. Son contrat arrivait à échéance à la fin de la saison, mais une option d'une année supplémentaire devrait être activée selon The Athletic et le compte X du journaliste italien Fabrizio Romano. Les champions en titre d'Angleterre qui reprennent la compétition samedi après la trêve internationale avec la réception de Tottenham restent sur une série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, une première sous l'ère Guardiola. City est actuellement 2e de Premier League, à 5 points du leader Liverpool.
NBA, Wembanyama, victime d'un coup à un genou, va manquer encore un match.
Le phénomène français Victor Wembanyama, victime d'un coup à un genou vendredi à NBA contre les Los Angeles Lakers, a manqué un 2e match consécutif mardi contre Oklahoma City
ont annoncé les San Antonio Spurs. Dans le rapport médical d'avant-match des Spurs, Wembanyama est passé d'incertain à forfait pour la rencontre face aux Thunder. Le Français peut espérer rejouer ce jeudi contre le Utah Jazz. Et c'est tout pour les sports.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, les statistiques relatives aux violences basées sur le genre sont en hausse malgré toutes les actions menées par les pouvoirs publics et les organisations de la société civile. À la faveur d'un atelier, l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a donné des chiffres qui appellent à plus d'actions. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé, pour plus de précisions.
Selon les statistiques de la 5e enquête démographique et de santé au Bénin réalisée par l'INSAE Bénin, les femmes béninoises sont confrontées à un risque élevé de violences basées sur le genre. Une femme sur 10 a subi des violences sexuelles et 42% de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences conjugales. Jonas Metorosu est juriste.
C'est important que les gens sachent qu'il y a des tests de loi qui existent, qui définissent ce que c'est que la violence, qui définissent des peines à l'encontre des auteurs de violences basées sur le genre, que si socialement ces faits arrivent, ils doivent être dénoncés. Dans tous les cas, la loi nous oblige à dénoncer ces faits-là. C'est une obligation.
Au Bénin, 50 000 cas de violences basées sur le genre avaient été enregistrés sur la période de 2019 à 2022. Sur ces cas, 33 613 avaient été pris en charge. Mais seulement 4311 sont arrivés devant les juridictions compétentes. C'est pour cela que le gouvernement béninois a créé le Centre intégré de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre de Cotonou et plusieurs autres dans les villes clés du Bénin. Dr Ibrahim Mama Cissé est le directeur départemental de la santé du Borgo.
La mission des CIPEG VBG, c'est de recevoir, d'écouter et de conseiller les victimes des violences basées sur le genre en leur apportant des soins, des soutiens au niveau sanitaire, juridique, psychologique.
Créé en 2015, les chiffres de la fréquentation du CIPEC Cotonou ne cessent de croître chaque année. Cette fréquentation est passée de 110 victimes en 2018 à 494 victimes en 2022 pour atteindre plus de 500 personnes en 2023. Dame Anne, nom d'emprunt, s'y est réfugiée depuis quelques mois.
Je suis arrivée ici parce que j'étais en couple avec un homme. La relation a duré déjà près de 4 ans quand il a été affecté sur Kétou et moi sur Abomey. Avant de rejoindre Abomey ici, je suis déjà tombée enceinte sans le savoir. Maintenant, arrivé ici, je l'ai informé de la situation. Mais il m'a abandonnée. C'est pourquoi je suis arrivée ici demander de l'aide.
Plus de 75% des personnes reçues dans le centre sont des jeunes filles âgées de moins de 18 ans, dont près de 90% des cas concernent des violences sexuelles. Depuis 2023, le centre a commencé par recevoir une nouvelle catégorie de victimes que sont les transgenres. Dr Sylvain Glito est interniste. Il décrit ici le profil des victimes.
En dehors des enfants, nos victimes sont surtout des femmes. Et les types de violences que nous rencontrons, malheureusement, ça va être le viol, parfois sur des mineurs, parfois sur des adultes, mais qui ne donnent pas leur consentement. Les violences physiques que nous rencontrons au centre, le plus souvent, c'est des violences de couple, avec malheureusement un mari qui bat sa femme. Ça peut être à coups de couteau, ça peut être à coups de batte.
16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ne suffiront pas pour changer les habitudes et les traditions encore plus tenaces. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Restons au Bénin, où l'ancien directeur général de la police nationale, le général Louis-Philippe Oundé-Nyon, a été arrêté et conduit en prison la semaine dernière pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. Pour analyser les mobiles de cette énième interpellation de personnalités publiques et politiques au Bénin, Chimel Gandenou a joint Marcel Zoumenou, journaliste, analyste politique et directeur de publication du quotidien Le Patriote.
Selon le paquet, il lui est reproché l'incitation à la rébellion et le harcèlement par voie électronique. Et depuis quelques jours, le général Ondeyon a fait beaucoup de sorties médiatiques sur des médias en ligne, sorties médiatiques au cours desquelles il fait beaucoup de révélations et dénonce assez de choses. Il a parlé par exemple des réformes à la police, du dispositif sécuritaire, de la lutte contre les terroristes, mais aussi il a abordé des sujets purement politiques comme la réélection du président Patrice Talon en 2021. Et qu'il a qualifié d'une élection qui est de nul effet parce que qu'il y avait une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui avait demandé que cette élection ne soit pas tenue. Il a aussi dit qu'il avait été approché plusieurs fois pour se mêler à des coups d'État et que ça ne l'a jamais intéressé. Et donc, c'est au regard de ces déclarations et de ces révélations qu'il a plu à la police de l'interpeller.
Que pensent les populations de ces chefs d'accusation?
Alors, il y a très peu de Béninois qui croient aujourd'hui aux interpellations. C'est devenu comme un effet de mode au point où les Béninois pensent réellement qu'aujourd'hui au Bénin, il suffit que sa tête ne plaît pas. Et puis, on peut trouver quelque chose à te coller pour te jeter en prison. Dans le cas de Ondeyon, il y a très peu de Béninois qui croient que ça soit fondé. Et d'ailleurs, même que les chefs d'accusation ne sont pas clairs. On parle d'incitation à la rébellion. Qui l'a incité à la rébellion? Est-ce que quelqu'un s'est rebellé depuis près de 2 mois où il fait cette déclaration?
Il y a quelques jours, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a demandé la libération du professeur Joël Aïvo. Pensez-vous qu'une grâce sera enfin accordée à Joël Aïvo, Ricky Amadougou et consort pour une décrispation des tensions politiques à l'orée des élections générales de 2026?
Si on parle de grâce, c'est comme si on reconnaît qu'ils ont commis une faute réellement. Ils ont été condamnés, ont purgé une partie de leur peine et que par pitié, le chef d'État décide de les gracier. C'est ce que ça signifie, la grâce. Alors que dans le cas de ces deux-là, toutes les organisations internationales, surtout le groupe de travail des Nations Unies, a reconnu qu'il n'y a pas eu procès et que les peines pour lesquelles les deux personnalités ont été accusées n'ont jamais existé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont commis aucune faute. C'est ce qu'on appelle chez nous de plus en plus dans le contexte béninois aujourd'hui, la justice fabrique des délits, fabrique des accusations contre vous et pour vous jeter en prison. Toutes les personnalités politiques depuis 2016 qui ont eu des ambitions de diriger notre pays, qui ont présenté cela comme un projet politique, sont soit en exil ou en prison.
Marcel Zoumenou, journaliste, analyste politique et directeur de publication du quotidien Le Patriote. Au Mali, notamment dans la région de Bandiagara, le maraîchage est une activité menée essentiellement par les femmes. Elles produisent de la pomme de terre, de l'oignon et d'autres légumes frais. La revente de ces produits leur permet d'assurer leur indépendance économique. D'autres utilisent leurs revenus pour assurer les frais de scolarité des enfants. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Ici à Bandiagara, le maraîchage est un moyen de résilience des femmes. Il est la deuxième activité après l'agriculture traditionnelle.
Je me réveille tous les matins. Après les travaux domestiques, je viens arroser mes parcelles dans le jardin.
Malgré le contexte sécuritaire difficile dans la région de Bandiagara, le maraîchage permet aux femmes d'accéder aux aliments nutritifs produits localement, comme la pomme de terre, la tomate et autres légumes frais. Comme Halima, beaucoup de femmes profitent bien du dynamisme du secteur.
Les légumes que vous voyez, je vais bientôt les vendre pour payer un mouton et faire de l'embauche. Les 2000 francs à 1500 francs l'unité. Je revends les moutons à la veille de la fête pour soutenir mon foyer.
Afin de vivre le secteur du maraîchage dans la région en proie à l'insécurité, les femmes s'organisent en association et regroupement pour solliciter l'appui technique et financier des partenaires. Très motivées, ces travaillent pour sa réinsertion socio-économique.
J'ai fui l'insécurité dans mon village. Ici, je fais le jardinage pour soutenir mon foyer et assurer la scolarité de mes enfants.
Dans certaines localités, la pénurie d'eau affecte la production maraîchère. Assise sur un bassin de retenue d'eau, Ruth raconte les difficultés des femmes.
Nous avons un sérieux problème d'eau dans ce jardin. Le bassin de retenue d'eau est à sec. Sans l'eau, on ne peut pas travailler.
Si le maraîchage représente social et économique pour certaines femmes, d'autres comptent sur l'appui de l'État et des partenaires pour renforcer le secteur. Tidiane Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Dans Washington Forum cette semaine, les résultats des législatives au Sénégal. Les principaux partis d'opposition ont reconnu leur défaite face aux partis au pouvoir. Ce résultat ouvre désormais la voie au président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse faire passer des réformes ambitieuses. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité, malgré une campagne électorale marquée par des affrontements sporadiques entre partisans rivaux. Que dit ce scrutin de la démocratie sénégalaise? Quels seront désormais les axes prioritaires du gouvernement? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alexandrine Poilognon et ses invités sur VOA Afrique, voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
La journaliste d'investigation nigérienne Samira Sabou est lauréate du prix international de la liberté et de la liberté de la presse du comité pour la protection des journalistes qui a récompensé 4 femmes cette année. Suivie par plus de 300 000 personnes sur Facebook, Samira Sabou fait le plaidoyer du journalisme en ligne pour la reconnaissance légale du statut de blogueur. Nathalie Barge lui a posé quelques questions ici dans nos studios.
Ce prix, pour moi, c'est le prix de la liberté et ce n'est pas que mon prix. C'est le prix aussi des institutions. C'est quand même assez paradoxal. C'est le prix des institutions de l'État qui ont accepté de nous accompagner à travers justement cet engagement que nous avons eu de demander plus de droits en ligne parce que l'État du Niger ne reconnaît pas aujourd'hui le journalisme en ligne. Et ces institutions de l'État ont eu à travailler avec nous, que ce soit le ministère de la Justice, à travers lequel justement nous avons été condamnés à plusieurs reprises par la justice nigérienne, mais malgré tout ils ont tenu à s'asseoir avec nous chaque fois que nous les avons conviés pour regarder justement les manquements qu'il y a concernant la loi sur la cybercriminalité, les manquements à corriger autant en matière de droit en ligne, en matière de sévérité de certaines peines, autant du fait que certains articles comme la diffamation tels que nous avons eu à faire le plaidoyer, en fait les Nations Unies ont demandé dans les années 90 aux États de sursoir à toute peine d'emprisonnement pour ce qui concerne les diffamations.
Samira Sabou, vous avez été arrêtée plusieurs fois, même emprisonnée. Comment avez-vous vécu ces périodes?
C'est des périodes de tristesse, c'est des périodes de désolation. Et par moments, il faut aussi dire que nous sommes touchés dans notre dignité parce que souvent nous sommes traités comme des criminels avant que vérité ne soit faite. Et souvent, même quand la vérité est faite, elle n'est pas exposée au grand public. Donc c'est avec beaucoup d'amertume que je me dis que j'ai été enlevée par mon État pour lequel j'ai travaillé parce que j'ai tenu à faire les choses dans les règles, que j'ai été arrêtée en prétextant que je suis en intelligence avec des puissances étrangères pour détruire mon pays. Je ne crois pas qu'un citoyen doté de bon sens puisse agir de tel. Je ne peux pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails du dossier qui est, si je ne me trompe pas, toujours en cours, mais je pense que la société me connaît bien, mes amis me connaissent bien, le travail que j'ai fait en ligne, je pense, expose assez largement que je suis, oui, non pas une citoyenne du Niger seulement, je suis une citoyenne du monde. Je crois que nous pouvons vivre en harmonie avec tous les peuples du monde et je pense pas que parce qu'on défend ces valeurs que nous sommes un ennemi de notre nation, tel que certains veulent le faire croire, qu'il faut se ranger de tel ou tel parti pour être un bon citoyen. Je ne crois pas qu'il s'agit de cela. Il faut se ranger dans les valeurs qui sont connues à travers la moralité que nous avons tous et qui, je le répète, est universelle.
C'était un extrait d'entretien VOA Afrique avec la journaliste nigérienne Samira Sabou, fondatrice de l'association des blogueurs pour une citoyenneté active. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mnezero, à la mise en onde, Lionel Lunanila Gahima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.